RFI, grand reportage.
Extérieurement, le pays s'est reconstruit très rapidement, mais les cœurs prennent plus de temps. Ça prend du temps de reconstruire la confiance entre les gens qui, hier, a été meurtrier, les autres étaient victimes. Donc ça prendra du temps, peut-être 2 ou 3 générations.
Au Rwanda, ce dimanche 7 avril marque le début de 100 jours de commémoration du génocide contre les Tutsis. Aujourd'hui, la population rwandaise est majoritairement née après 1994, mais toutes les générations sont marquées. Rescapés, anciens bourreaux, enfants des uns et des autres, chacun portant lui une part du traumatisme. Rwanda, 30 ans après le génocide, pensait les blessures invisibles. C'est un grand reportage de Lucie Mouillot et Amélie Tullet.
Nous sommes en train de trier les vêtements des personnes qui ont été tuées ici, au mémorial. Nous les trions selon la cause du décès, par machette ou par balle. Et le tri se fait également selon leur âge et leur sexe. Je vois qu'il y a même des enfants parmi les victimes. Et les vêtements ont d'énormes taches de sang. Ça fait très peur.
Dans le tout nouveau mémorial de Musanze, dans le nord du Rwanda, Mireille Ngabire, 20 ans, sort de grands sacs en toile un tas de vêtements poussiéreux. Des habits retrouvés avec plus de 800 victimes du génocide dans l'ancienne cour d'appel de la ville. Comme elle, plusieurs dizaines d'étudiants consacrent leur matinée à ces préparatifs avant les commémorations.
Je vois ainsi moi-même l'horreur à travers ces vêtements de victimes du génocide. Voir qu'il y a des jeunes qui avaient mon âge, des adultes, des enfants qui ont péri pendant cette tragédie. Mais ça m'encourage à faire tout ce que je peux pour empêcher que mon pays ne sombre à nouveau dans un tel malheur.
Derrière les bâtiments, plusieurs groupes de jeunes aménagent les jardins. Steven Giza, 23 ans, vient de Kigali, d'une famille de rescapés.
Le génocide a emporté beaucoup de membres de ma famille. Je n'ai ni tante, ni oncle, ni grands-parents.
Quand les jeunes de mon âge partent en vacances chez leur tante ou leurs grands-parents, je me demande pourquoi moi je ne peux pas. Mais c'est l'histoire qui a fait que je me retrouve dans cette situation. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Quand on parle, mon père nous partage beaucoup d'histoires sur la guerre de libération du pays. Mais maman nous explique très peu ce qu'elle a vécu. Parfois, elle ne veut pas aborder certaines parties de son expérience. Elle nous raconte comment elle a fait pour survivre, mais elle évite de parler des moments trop douloureux qu'elle a vécu. Elle n'aime pas partager cela.
Dans le jardin de sa maison familiale à Mushubati, sur les hauteurs du lac Kivu, dans l'ouest du Rwanda, la psychothérapeute Emilienne Mukansoro fête avec plusieurs dizaines de participants la fin d'une série d'ateliers de parole intergénérationnels.
Les enfants du groupe nous ont dit, nous avons entendu ce qui s'est passé par les trous des fenêtres, par la porte. Parce qu'on voulait savoir, mais on n'a jamais eu des discussions, des vraies discussions avec nos parents sur ce qui s'est passé. Le silence n'empêche pas la transmission et le silence n'empêche pas que les jeunes encaissent ou absorbent des choses. Les jeunes de ce pays vivent comme s'ils n'ont pas de lien avec l'histoire du pays, avec l'histoire de leur famille. pas parce qu'ils ne ressentent pas des choses, mais ils se battent plus pour s'éloigner de cette histoire, alors que c'est vraiment impossible. Les enfants ont eu ce malheur d'hériter la souffrance est de leurs parents, mais aussi de vivre dans cette souffrance. Les enfants, les jeunes ont besoin de poser des questions et les aînés ont besoin, ils ont le devoir de répondre aux jeunes, de ne pas les laisser dans quelque chose d'abstrait. Et je me dis que c'est là où les jeunes tireront la force pour continuer leur vie.
Je m'appelle Léoncie Safari, j'ai 65 ans. Avec mon mari, nous avons 7 enfants, une fille et 6 garçons. Et je suis la grand-mère de 5 petits-enfants. On n'a pas réussi à dire la vérité à nos enfants. Mais après les ateliers, personne n'a pu s'endormir avant de discuter avec ses enfants, son mari, son épouse. Et c'est là où nos enfants nous ont posé des questions et nous ont demandé pourquoi nous n'avions pas parlé de ça avant. Maintenant, on attend les vacances pour que les plus jeunes reviennent et pour leur avouer qu'on les a fait souffrir, que nous ne leur avons pas dit la vérité, qu'on a échoué et qu'on leur demande pardon.
Génocide à la biche. Et voilà, c'est...
Chez moi, mes proches ont été tués pendant le génocide. Chez leur père, ils ont commis le génocide. Leurs oncles sont en prison à cause du génocide. Il y en a un qui est mort en prison. Il y en a qui se sont enfuis et qui ne sont jamais revenus. Un des oncles a été libéré et c'est maintenant notre voisin. Je raconte un peu à mes enfants, mais de façon à ne pas créer de conflit avec la famille de leur père. Je leur dis juste que même s'ils ont fait du mal, ça reste leur famille.
Une enquête de 2018 révèle qu'au moins un Rwandais sur 5 souffre d'un problème de santé mentale. Parmi les survivants du génocide, un quart souffre de syndrome de stress post-traumatique. Un tiers connaît des symptômes dépressifs. Dans le sud du Rwanda, à Huye, le centre Isange est dédié à la prévention et au traitement des addictions. Alcool, drogues en tout genre, jeux d'argent. Avec son équipe, le psychologue Patrick Rwagatare travaille sur le devenir du traumatisme pour des patients qui étaient de jeunes enfants pendant le génocide.
On s'est rendu compte qu'il y avait un nombre assez important de jeunes adultes et le dénominateur commun, ils ont vécu le génocide quand ils étaient jeunes, très jeunes, des enfants qui avaient 0 à 3, 4, 5. Donc, on a mis en place un groupe de parole pour permettre de mettre un peu de mots sur leurs souvenirs qui parfois étaient, qu'ils n'arrivaient pas à ramener dans la conscience. Je me rappelle un jeune homme, il se rappelait d'une scène, il était dans le dos de sa mère. Sa mère, qui avait probablement senti qu'on allait la tuer. Elle a enlevé son petit garçon de 3 ans dans le dos et elle l'a laissé partir. Parce qu'un enfant de 3 ans, on ne sait pas s'il est tout petit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a continué à errer. Il n'a pas su ce qui s'est passé à sa mère. Je crois que ça, c'est un exemple que je voudrais donner pour un peu faire le lien entre le traumatisme vécu quand on est enfant et plus tard cet comportement addictif parfois qui peut dérouter les cliniciens.
Parmi les patients accueillis par le centre, cet homme de 36 ans, il en avait 6 en 1994. Il a dû fuir à l'époque jusqu'au Burundi avec sa grande sœur quand leurs parents ont été tués.
Après le génocide, je me suis retrouvé sans parents, sans famille, mais il fallait bien vivre, il fallait survivre. Quand je voyais une bouteille d'alcool, je buvais parce que ça m'aidait à me sentir plus calme, à ne plus penser, à oublier.
À ses côtés, un autre patient, très amaigri, qui tente de se sevrer de l'héroïne. Il avait 5 mois seulement quand le génocide a commencé. Orphelin et trop jeune pour avoir le moindre souvenir conscient de cette époque.
Je me droguais parce que j'étais seul après des années à l'orphelinat. La famille qui me restait ne m'a pas prise en charge. Sans drogue, je n'arrivais pas à dormir. C'est seulement quand je prenais de la drogue que je trouvais le sommeil et un peu de paix.
Il y a aussi les enfants qui n'étaient pas menacés en 1994, mais qui ont vu leurs proches commettre le génocide et qui sont aujourd'hui de jeunes adultes. Même s'ils ne se présentent pas dans son centre, le psychologue Patrick Roy-Gattaré s'interroge sur leur part de souffrance.
Je me demande pour les personnes qui ont vu leurs parents, leurs frères, leurs oncles, se rendre responsables de ces actes ignobles, de ces cruautés. Comment ils ont grandi? Qu'est-ce qu'on peut leur dire entre le bien et le mal? C'est pour cela peut-être qu'on n'en reçoit pas et que peut-être on a cette recrudescence des comportements addictifs à l'une ou l'autre substance. Parce qu'on ne sait pas dire, mais on a ce conflit psychique qui est en vous. On se dit, j'ai assisté à ça de la part d'une personne que j'aime bien. Ou même le fait qu'on appartient à la même famille, au même groupe et tout ça, il y a des culpabilités qui peuvent émerger à tout ça. Et je me dis que c'est quelque chose qui n'est pas assez facile.
La période de commémoration du génocide réactive des souvenirs douloureux. Les soignants enregistrent chaque année entre 2000 et 3000 interventions pour des crises traumatiques pendant la première semaine de commémoration. Dans sa maison au cœur de la ville de Moussandé, Julienne Mukagakwaya, 67 ans, essaie de trouver le courage d'affronter la période de deuil national.
Je ne vais pas souvent aux commémorations. Je vais même jusqu'à éteindre ma radio et ma télévision pour éviter d'entendre les témoignages des autres, afin de ne pas être replongé dans mes souvenirs choquants. Lors de mes traumatismes, je me plongeais dans des scènes d'horreur que j'avais vécues. Je ressentais la même angoisse, la même peur. Je revoyais les interamouais qui me pourchassaient. J'entendais leurs cris. Je me cachais comme je l'avais fait au moment du génocide. Après cela, mon corps lâchait et je m'évanouissais.
Extérieurement, le pays s'est reconstruit très rapidement, mais les cœurs prennent plus de temps. Ça prend du temps de reconstruire la confiance entre les gens qui, hier, étaient meurtriers, les autres étaient victimes. Donc ça prendra du temps, peut-être 2 ou 3 générations, pour que ce soit fini. Et c'est là où les églises devraient jouer un grand rôle.
Antoine Routaï-Siré est un pasteur anglican à la retraite, lui-même rescapé du génocide. Il a connu avant 1994 les épisodes de violence qui ont marqué les décennies précédentes au Rwanda.
Les Rwandais particulièrement n'aiment pas mettre dehors leurs sentiments. Même quand je ressens la tristesse, quand tu viens, je mets un masque de joie et d'hospitalité. Mais nous qui vivons dans la communauté chaque jour, nous savons bien qu'il y a des soubassements de tristesse, des soubassements de peur, de méfiance, de peur du lendemain, des sentiments de désespoir et de découragement, principalement durant la période de commémoration. Donc, la présence de l'Église pour l'encouragement, pour le soutien est toujours nécessaire.
Donc, c'est très intérieur.
C'est très intérieur, oui, parce que l'extérieur, nous avons guéri, mais à l'intérieur, il y a encore des blessures cachées.
Est-ce que vous les considérez inquiétantes, ces blessures cachées?
Une blessure est toujours une blessure. Donc là, je crois que nous avons un travail à faire. C'est pourquoi même au niveau du gouvernement, on a mis en place un ministère Il y avait une commission pour l'unité nationale. Maintenant, on a transformé ça en un ministère, ce qui veut dire qu'on rend ça permanent pour qu'on continue à aider les gens avec leurs blessures, leurs problèmes, jusqu'à ce que nous voyons que la communauté est bien rétablie.
Bonjour monsieur. Voilà.
Avec d'autres organisations, Interpeace a développé l'approche Mvuran Kuvure. En Kinyarwanda, ça veut dire « tu me soignes, je te soigne ». Une forme de sociothérapie à laquelle a pris part Innocent Gatanazi, un cultivateur du district du Bugesera. Il a passé 8 ans en prison et fait 4 ans de travaux d'intérêt général.
Quand j'étais en prison, mon plus grand cauchemar était de ne jamais être pardonné. Je pensais aux crimes que j'avais commis et j'avais le sentiment que ma place était en prison pour toujours. J'avais peur que les gens que j'avais trahis en tuant leurs proches me tuent aussi s'ils me retrouvaient. Une fois sorti de prison, quand je rencontrais quelqu'un que j'avais trahi, j'avais peur et je me méprisais. Je me demandais pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Alors j'ai décidé d'attendre et d'espérer qu'il me pardonnerait. Même libre, je rêvais que j'étais en prison. Je rêvais que je tenais une assiette pour aller chercher à manger en prison. Et pourtant, j'étais libre. Voilà pourquoi la sociothérapie m'a été très utile. Parfois, lorsque nous participons à des discussions de groupes communautaires, les jeunes me demandent à quoi je pensais lorsque j'ai commis ces crimes. Mais je leur dis de ne pas poser ce genre de questions. Ce que nous avons vu est mauvais. Ne voyez jamais ce que nous avons vu. Je leur dis qu'ils ne devraient jamais voir de génocide de leur vie. Ne jamais voir des gens chasser les autres comme s'ils avaient volé quelque chose. Parce que ça m'a vraiment détruit. À mon âge, savoir que j'ai tué des gens, ça m'a détruit.
C'est dans le cadre du groupe de parole organisé par Interpeace que Innocent Gatanazi a revu Françoise Mukaremera, cultivatrice comme lui, mais dans un village voisin. C'est lui qui a tué sa petite sœur de 5 ans en
1994.
Je ne faisais confiance à personne, j'avais toujours quelque chose qui n'allait pas dans ma tête. J'étais remplie de haine et je voulais tuer ceux qui avaient commis le génocide. Si j'avais eu une arme, je leur aurais tiré dessus. Quand j'ai rencontré Gatanazi, j'étais très effrayée. Je me demandais s'il nous avait invités dans le groupe pour nous assassiner. Je pensais qu'il me tuerait. Après la première, la deuxième, la troisième et quatrième session, j'ai commencé à me calmer et à ne plus avoir peur. Je lui ai demandé... « C'est vrai que tu as tué ma sœur ?» Et il a répondu que c'était bien lui qui l'avait tuée. Il m'a tout raconté. Puis il m'a demandé pardon. Lorsqu'il a demandé pardon, je lui ai dit que j'y réfléchirais. Le troisième jour, il a de nouveau demandé pardon. Et nous en avons discuté. Je lui ai dit que j'y avais réfléchi et que j'avais trouvé un chemin pour vivre avec. Je lui ai pardonné parce qu'il avait dit la vérité.
Françoise Mukaremera dit que ce n'est plus un fardeau qu'elle porte sur le cœur, mais que la douleur est toujours là. Elle dit éviter les sources de stress et quand les questions de ses enfants deviennent trop douloureuses, elle se lève et va se coucher. Son mari, rescapé lui aussi, partage une bouteille de bière sur le banc devant la maison avec Innocent Gatanazi, l'homme qui a tué la petite sœur de sa femme, il y a 30 ans.
Rwanda, 30 ans après le génocide de Penser les blessures invisibles, un grand reportage de Lucie Mouillot et Amélie Tullet, réalisation Tiffany Menta.